From the conference center at Temple Square in Salt Lake.
Ici, le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City. Vous allez assister à la session de la prêtrise de la 182e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Cette session est diffusée à des milliers d'églises de par le monde. La musique de cette session sera interprétée par un chœur de la prêtrise de Melchizedek d'Ogden en Utah.
President Dieter F. Uchtdorf, second
counselor. Dieter F. Uchtdorf, deuxième conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session.
Mes
frères, nous vous souhaitons la bienvenue à la session générale de la prêtrise de la 182e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Thomas S. Monson, qui préside cette conférence, m'a demandé de diriger cette session. Ces réunions sont diffusées par satellite pour les détenteurs de la prêtrise dans des bâtiments de nombreux pays du monde. La musique de cette session sera interprétée par un chœur de la prêtrise de Melchizedek, composé de frères de l'interrégion d'Ogden, sous la direction de Stephen P. Schunk et Derek Fourch, accompagné à l'orgue par Andrew Huntworth. Le chœur ouvrira cette session en chantant « Louange à Dieu ». Ensuite, la prière d'ouverture sera faite par J.E. Jensen, qui a été relevé cet après-midi de son appel de membre du premier collège des 70.
Oh, my soul, praise Him for He Our Holy Father,
notre Père très saint, nous inclinons devant toi en nos prières humblement et nous exprimons notre gratitude et notre reconnaissance à toi, notre Père, et nous exprimons aussi notre reconnaissance pour ton Fils et son expiation infinie, éternelle, et à quel point cela influence chacun des aspects de notre vie, de toutes les façons. Nous te remercions, Père, que tu te sois avec ton Fils révélé à Joseph dans ces derniers jours, révélation qui a été suivie par l'apparition du Livre de Mormon dans notre dispensation. Et ce soir, nous exprimons notre révérence et gratitude pour le rétablissement des clés sacrées de la prêtrise. Nous sommes reconnaissants de la première présidence et des 12 qui détiennent toutes les clés du royaume. Nous prions pour eux, pour président Monson en particulier, tandis qu'il le préside en tant qu'apôtre doyen. Ce soir, nous sommes rassemblés par le monde entier, souhaitant être enseignés. Et nous voulons être enseignés, et nous prions pour ceux qui vont enseigner et parler et nous édifier, afin que ceux qui vont écouter puissent être enseignés en fonction de leurs besoins. Bénis la génération montante de ces jeunes gens qui viennent pour se servir. Bénis leurs dirigeants afin que ce pouvoir de la prêtrise leur soit sacré, afin qu'ils restent sur ce chemin et qu'ils se saisissent de la barre de fer. Et nous prions pour cela au nom de Jésus-Christ. Amen.
The choir will now favor us with...
Le chœur va maintenant chanter « Aimez vos frères ». Après le cantique, nous aurons le plaisir d'entendre D. Todd Christofferson du Collège des Douze Apôtres. Il sera suivi de Gary A. Stevenson, évêque président de l'Église, et d'Anthony D. Perkins, des 70.
Thank you, brethren, for that magnificent hymn.
Merci, frères, pour ce chant magnifique. Beaucoup a été dit et écrit ces dernières années au sujet des difficultés que rencontrent les hommes et les garçons. Voici, par exemple, quelques titres. Why there are no good men left? Pourquoi il ne reste plus d'hommes bons? The demise of guys, la défection des garçons. The end of men, la fin des hommes. Why boys fail, pourquoi les garçons échouent. Et manning up, agir comme des hommes. Il est intéressant de noter que la plupart de ces livres ont été écrits par des femmes. En tout cas, le point commun à ces analyses est que dans beaucoup de sociétés modernes, les hommes reçoivent des signaux confus et contradictoires sur leur rôle et leur valeur dans la société. L'auteur de Manning Up, Agir comme des hommes, le démontre de cette façon. Je cite, « Cela a été une règle presque universelle de la civilisation, que tandis qu'une fille devenait une femme simplement parce qu'elle atteignait la maturité physique, les garçons, eux, avaient une épreuve à passer. Ils devaient démontrer leur courage, leur prouesse physique ou la maîtrise des compétences nécessaires. L'objectif était de prouver leur capacité de protéger les femmes et les enfants. C'était toujours leur rôle social fondamental. Mais aujourd'hui, que les femmes s'affirment au sein d'une économie supérieure, les maris et pères, soutien de famille, sont devenus facultatifs. Et les traits de caractère dont les hommes avaient besoin pour jouer leur rôle, la détermination, le stoïcisme, le courage, la fidélité, sont surannés et sont même un peu embarrassants. » Fin de citation. Dans leur zèle à créer des possibilités pour les femmes, ce que nous approuvons pleinement, certaines personnes dénigrent les hommes et leurs contributions. On dirait qu'elles considèrent que la vie est une concurrence entre les hommes et les femmes, que l'un doit dominer l'autre, et que c'est maintenant au tour des femmes. Certains affirment qu'une carrière est essentielle, et que le mariage et les enfants sont, ou devraient être, entièrement facultatifs. Donc à quoi servent les hommes? Dans trop de films hollywoodiens, d'émissions télévisées, et même de publicités, les hommes sont dépeints comme étant incompétents, immatures ou égocentriques. Cette émasculation culturelle des hommes fait des dégâts. Par exemple, aux États-Unis, on rapporte que, je cite, « Les filles réussissent maintenant mieux que les garçons, tout niveau scolaire confondu, de l'école primaire jusqu'aux études supérieures. À la fin du premier cycle du secondaire, par exemple, seulement 20% des garçons savent écrire et 24% savent lire. En 2011, les résultats des jeunes hommes à l'examen d'entrée dans les universités américaines étaient les pires qu'on ait vus depuis 40 ans. Les risques que les garçons interrompent leurs études pendant le lycée ou l'université sont supérieurs de 30% à ceux des filles. Il est prédit que d'ici 2016, les femmes empocheront 60% des licences universitaires, 63% des maîtrises et 54% des doctorats. Deux tiers des élèves inscrits dans les programmes de réinsertion scolaire sont des garçons. » Fin de citation. Certains hommes et jeunes hommes trouvent dans ces signaux négatifs une excuse pour éviter d'assumer des responsabilités et pour ne jamais devenir réellement adultes. Un professeur d'université a fait la remarque suivante, malheureusement trop souvent vraie. Les garçons arrivent en classe avec leur casquette de baseball à l'envers et leur piètre excuse. L'ordinateur a avalé mes devoirs. Pendant ce temps, les filles consultent leur agenda et demandent des lettres de recommandation pour la faculté de droit. Une critique cinématographique a exprimé cette vision assez cynique que ce qu'on peut attendre d'un homme, si on a de la chance et qu'on choisit d'avoir un partenaire, c'est exactement cela, un partenaire. Quelqu'un qui reste à sa place comme il respecte le fait que nous restions à la nôtre. Frères, il ne peut pas en être de même pour nous. En tant qu'hommes de la prêtrise, nous avons un rôle essentiel à jouer dans la société, dans le foyer et dans l'Église. Mais nous devons être des hommes à qui les femmes peuvent faire confiance, à qui les enfants peuvent faire confiance, à qui Dieu peut faire confiance. Dans l'Église et le royaume de Dieu, en ces derniers jours, nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des garçons et des hommes qui dérivent. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des jeunes gens qui manquent de discipline personnelle et qui ne vivent que pour qu'on les amuse. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des jeunes adultes qui ne vont nulle part dans la vie, qui ne songent pas sérieusement à fonder une famille et à apporter une vraie contribution dans ce monde. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des maris et des pères qui négligent la direction spirituelle de leur foyer. Nous ne pouvons pas non nous permettre d'avoir des hommes qui détiennent et exercent la sainte prêtrise selon l'ordre du Fils de Dieu et qui épuisent leur force dans la pornographie ou passent leur temps dans le cyberspace, cyberespace. Ironie des choses, étant du monde sans être dans le monde. Frères, nous avons du travail à faire, du pain sur la planche. Jeunes gens, vous devez avoir de bons résultats à l'école et ensuite continuer vos études au-delà du lycée. Il serait souhaitable que certains d'entre vous poursuivent des études universitaires et des carrières dans le monde des affaires, l'agriculture, le gouvernement ou les professions libérales, que d'autres excellent dans les arts, la musique et le théâtre, et que d'autres apprennent un métier manuel. Au fil des ans, un certain nombre d'artisans sont venus chez moi faire de la restauration ou des réparations. J'ai admiré le talent de ces hommes et leur capacité de travailler dur. Ils étaient entre autres menuisiers, électriciens, plombiers, peintres, carreleurs, sauliers, couvreurs. Il est essentiel de vous devenir compétent dans le domaine que vous choisissez pour pouvoir subvenir aux besoins de votre famille et contribuer au bien de votre collectivité et de votre pays. J'ai vu récemment une vidéo montrant une journée de la vie d'un jeune homme de 14 ans en Inde. Il se lève tôt et travaille de longues heures dans deux emplois, avant et après l'école, 6 jours et demi par semaine. Son salaire constitue une part importante des ressources de sa famille. La nuit tombée, sur son vélo usé, il se hâte de rentrer à la maison après son deuxième emploi et parvient à trouver quelques heures pour ses devoirs, avant de tomber de fatigue sur son lit, à même le sol, entre deux frères endormis, à 22h30 ou 23h. Bien que je ne l'ai jamais rencontré, je suis fier de lui pour sa diligence et son courage. Il fait son mieux avec les moyens dont il dispose. Et il est une bénédiction pour sa famille. Vous, frères adultes, jeunes gens, enseignants, parents, vous devez élever une génération de garçons qui deviennent des hommes. Enseignez-leur les compétences nécessaires dans la société, comment participer à une conversation, comment faire connaissance, interagir avec les autres, comment s'entendre avec les femmes et les filles, comment servir, comment être actif et se divertir, comment avoir des loisirs sans en être dépendant, comment corriger les erreurs et faire de meilleurs choix. Donc à tous ceux qui écoutent, où que vous soyez lorsque ce message vous parviendra, je dis ce que Jéhovah a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Prenez courage et préparez-vous, quelle que soit votre situation. Préparez-vous à être un bon mari, un bon père. Préparez-vous à être un citoyen bon et productif. Préparez-vous à servir le Seigneur dont vous tenez la prêtrise. Où que vous soyez, votre Père Céleste soucie de vous. Vous n'êtes pas seul. Vous avez la prêtrise et le don du Saint-Esprit. De tous les endroits où l'on a besoin de vous, l'un des plus importants est votre collège de la prêtrise. Nous avons besoin de collèges qui soient plus qu'une leçon le dimanche. Et nous avons besoin de dirigeants de collèges qui soient concentrés sur l'œuvre du Seigneur, sur le soutien des membres du collège et de leur famille, et sur les bons résultats qu'ils peuvent obtenir dans la vie, toutes les personnes qu'ils touchent. Pensez à l'œuvre missionnaire. Jeunes gens, vous n'avez pas de temps à perdre. Il est urgent que vous prépariez mieux et plus tôt. Le président Monson vient d'annoncer que les jeunes gens peuvent servir des missions à un âge plus jeune. On ne peut pas. Il faut être très sérieux pour se préparer le plus tôt possible et pas attendre d'avoir 18 ou 19 ans. Les collèges de la prêtrise d'Aaron peuvent aider leurs membres à comprendre les serments et l'alliance de la prêtrise, à se préparer pour leur ordination à l'office ancien. Ils peuvent les aider à comprendre et à se préparer pour les ordonnances du temple. Et ils peuvent les aider à se préparer et réussir leur mission. Les collèges de la prêtrise de Melchisédek, société de secours, peuvent aider les parents à préparer des missionnaires qui iront pleinement engagés dans le champ de la mission. Dans chaque paroisse et chaque branche, ces mêmes collèges peuvent les former à travailler efficacement avec les missionnaires à plein temps, qui œuvrent sur place. Une tâche apparentée qui repose essentiellement sur les épaules de la prêtrise et l'appel du Seigneur répété par le président Monson à secourir les personnes qui sont éloignées de l'Église. Nous avons eu un succès merveilleux dans cet effort, notamment un excellent travail a été fourni par les jeunes gens. Un collège de détenteurs de la prêtrise d'Aaron, de la paroisse espagnole de Rio Grande à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, a tenu conseil pour parler des garçons qu'il voulait ramener. Ils sont allés en groupe rendre visite à chacun d'eux. L'un des garçons a dit, « Je ne savais pas que tant de jeunes voulaient que j'aille à l'église avec eux. Alors maintenant, je veux aller à l'église. Maintenant, je veux aller à l'église. » Quand ils ont rendu visite à l'un des garçons, ils l'ont invité à revenir. Les membres du collège ont demandé d'aller faire la prochaine visite avec eux, et il l'a fait. Ils ne se contentaient pas de l'inviter à aller à l'église la semaine prochaine. Ils l'intégraient immédiatement à la vie de leur collège. Une autre œuvre difficile mais stimulante de la prêtrise est celle de l'histoire familiale et du temple. Guettez l'arrivée prochaine d'une lettre de la première présidence, qui offrira un appel renouvelé et une vision plus élevée de cette partie essentielle de l'œuvre que nous avons à accomplir. Nos collèges forment une fraternité de soutien mutuel. Le président Hinckley a dit un jour, ce sera un jour merveilleux, mes frères, un jour où les desseins du Seigneur s'accompliront. Lorsque nos collèges de la prêtrise deviendront un bastion pour tout homme qui appartient, lorsque tout homme pourra dire à juste titre, je suis membre d'un collège de la prêtrise, de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Je suis prêt à aider mes frères dans tous leurs besoins, comme je suis certain qu'ils sont prêts à m'aider dans les miens. En travaillant ensemble, nous progressons spirituellement comme fils de l'Alliance de Dieu. En travaillant ensemble, nous pourrons résister sans embarras et sans crainte à tous les vents de l'adversité qui peuvent souffler, qu'ils soient économiques, sociaux ou spirituels. Fin de citation. Malgré nos meilleurs efforts, les choses ne marchent pas toujours comme on l'a planifié. Une des choses les plus terribles qui vient à un homme, c'est de se trouver sans emploi. Une ancienne brochure de service d'entraide de l'Église déclarait « Un homme sans emploi a une importance spéciale pour l'Église parce que privé de son patrimoine, il est mis à l'épreuve dans son intégrité, comme Job l'a été. Quand les jours se transforment en semaines et en mois, et même en années d'adversité, la blessure se fait plus profonde. L'Église ne peut espérer sauver un homme le dimanche si pendant la semaine, elle assiste sans bouger à la crucifixion de son âme. » En avril 2009, l'ancien conseiller dans l'épiscopat président, Richard C. Edgley, a raconté l'histoire d'un collège exemplaire qui s'était mobilisé pour aider l'un de ses membres qui avait perdu son emploi. Il a dit, « Le garage de Phil à Sainte-Urville en Utah témoigne de ce que les dirigeants de la prêtrise et un collège peuvent accomplir. Phil était membre d'un collège d'anciens et travaillait comme mécanicien dans un garage automobile de quartier. Malheureusement, ce garage a connu des difficultés économiques et a dû se séparer de Phil. Ce dernier a été complètement anéanti par la tournure de ces événements. Apprenant la perte d'emploi de Phil, son évêque, Léon Olson, et sa présidence de collège d'anciens ont prié pour trouver un moyen de l'aider à se remettre en selle. Après tout, c'était un membre du collège, un frère. Il avait besoin d'aide. Ils ont conclu qu'il avait les capacités pour gérer sa propre entreprise. L'un des membres du collège a dit qu'il avait une vieille grange qui pourrait peut-être servir d'atelier de réparation. Notre membre du collège pouvait l'aider à rassembler les outils et les fournitures nécessaires pour équiper son nouveau garage. Tous les membres du collège, ou presque, pouvaient au moins aider à nettoyer la vieille grange. Ils ont fait part de leurs idées à Phil, puis ont présenté leur projet aux membres de leur collège. La grange a été nettoyée et rénovée, les outils ont été rassemblés et tout a été rangé. Le garage de Phil a rencontré un franc succès et a finalement déménagé dans un bâtiment plus adapté et définitif. Tout cela parce que les frères de son collège lui avaient proposé de l'aide à un moment de crise. Bien entendu, comme les prophètes l'ont répété au fil des ans, la partie la plus importante de l'œuvre du Seigneur que vous pourrez accomplir sera celle que vous accomplirez dans votre foyer. Nous avons beaucoup à faire pour enseigner à nos enfants à prier et à marcher en droiture devant le Seigneur. Notre société est en train de se détériorer de plus en plus. Notre devoir n'est rien moins que d'aider nos enfants à éprouver le grand changement de cœur ou la conversion au Seigneur dont le livre de Mormon parle avec tant d'éloquence. Avec la société de secours, les collèges de la prêtrise peuvent enseigner aux parents comment aider leurs enfants à parvenir à la conversion. Et elles peuvent apporter les bénédictions de la prêtrise aux familles monoparentales. Frères, vous pouvez réussir. Merci pour les sacrifices que vous faites. Continuez. Et le Seigneur vous viendra en aide. Il y arrivera que vous ne sachiez pas ce qu'il faut dire ou faire. Quand avez-vous de commencer? Commencez à agir et le Seigneur promet qu'une porte efficace vous sera ouverte. Commencez à parler et il promet, vous ne serez pas confondus devant les hommes, car ce que vous devez dire vous sera donné sur l'heure, oui, au moment même. Et il est vrai que de beaucoup de manières nous sommes imparfaits, nous sommes ordinaires, mais nous avons un maître qui est parfait. Qui a produit une expiation parfaite. Nous pouvons faire appel à sa grâce et à sa prêtrise, tandis que nous nous repentons et que nous purgeons nos âmes. Et il nous est promis que nous serons dotés du pouvoir d'en haut. L'Église, le monde et les femmes pleurent après des hommes véritables qui sont efforcés, s'efforcent encore de cultiver leurs compétences et leurs talents, qui défendent de ce qui est juste, qui n'ont pas peur des sacrifices, qui sont prêts à travailler, qui aideront les autres à atteindre le bonheur et le salut. Ils crient, levez-vous, ô homme de Dieu, que Dieu nous aide à le faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Ce soir, c'est pour moi une bénédiction particulière de m'adresser en tant qu'évêque aux jeunes gens, détenteurs de la prêtrise d'Aaron, rassemblés dans le monde pour cette réunion générale de la prêtrise. Je vais vous parler de l'histoire que l'on trouve dans le livre de Mormon à propos d'Élaman et de ses 2000 jeunes guerriers. Ce passage donnera une idée de la personnalité de ces jeunes gens d'autrefois et pourra être une inspiration pour vous, jeunes gens d'aujourd'hui. Je cite une écriture bien connue. « Et c'étaient tous de jeunes hommes, et ils étaient extrêmement vaillants dans leur courage et aussi dans leur force et leur activité. Et voici, ce n'était pas tout, c'était des hommes qui étaient fidèles en tout temps. Courage, force, activité et fidélité, que de traits de caractère admirables. » Je vais m'arrêter sur le premier trait de caractère qui les décrit, « vaillants dans leur courage ». Pour moi, cela montre la détermination de ces jeunes hommes à faire avec courage ce qui est juste. Ou, comme le décrit Alma, à être les témoins de Dieu en tout temps et dans tous les lieux. Les 2000 jeunes guerriers ont eu des occasions innombrables de prouver leur courage. Chacun d'entre vous connaîtra aussi des moments déterminants qui exigeront du courage. Un de mes amis, John, m'a fait part d'un de ces moments de sa vie. Il y a des années, John a été admis dans une université japonaise prestigieuse. Il devait faire partie de la promotion internationale avec beaucoup d'autres étudiants du monde entier. Certains s'étaient inscrits en espérant approfondir leur compréhension de la culture et de la langue. D'autres considéraient cela comme un tremplin pour se former à une profession et obtenir à terme un emploi au Japon. Mais tous avaient quitté leur foyer pour étudier dans un pays étranger. Peu après l'arrivée de John, le bruit a couru parmi la population estudiantine étrangère qu'une fête devait avoir lieu sur le toit en terrasse d'une résidence privée. Une invitation ouverte à tous pour briser la glace et faire connaissance. Ce soir-là, John et deux amis se sont rendus à l'adresse indiquée. Après avoir pris l'ascenseur pour atteindre le dernier étage de l'immeuble, John et ses amis ont monté l'escalier étroit qui menait au toit et ont commencé à se mêler aux autres. La soirée avançant, l'atmosphère a changé. Le bruit, le volume de la musique et l'alcool augmentaient en même temps que le malaise de John. Puis brusquement, quelqu'un a commencé à placer les étudiants dans un grand cercle avec l'intention de passer des cigarettes de marijuana. John a fait la grimace et a rapidement déclaré à ses deux amis qu'il était temps de partir. L'un d'eux a répondu sur un ton un peu railleur. « John, c'est facile. Nous n'avons qu'à nous mettre dans le cercle et lorsque ce sera notre tour, nous n'aurons qu'à faire passer au lieu de fumer. Comme cela, nous n'aurons pas à nous mettre dans l'embarras devant tout le monde en partant. » Cela semblait facile à John, mais ça ne semblait pas juste. Il savait qu'il devait affirmer clairement son intention et agir. En un instant, il a rassemblé son courage et leur a dit qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, mais que lui partait. Un ami a décidé de rester et s'est joint au cercle. L'autre a suivi John et à contre-cœur dans l'escalier pour prendre l'ascenseur. Alors, grande surprise, lorsque les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, des policiers japonais en sont sortis et se sont empressés de monter l'escalier qui menait au toit. John et son ami ont pris l'ascenseur et sont partis. Quand la police est apparue en haut de l'escalier, les étudiants ont rapidement jeté les drogues illicites du toit pour ne pas être attrapés. Cependant, après avoir bloqué l'escalier, les policiers ont aligné tout le monde sur le toit et ont demandé à chaque étudiant de tendre les mains. Ils ont ensuite passé les étudiants en revue en sentant minutieusement leurs pouces et leurs index. Tous ceux qui avaient tenu la marijuana, qu'ils en aient fumé ou non, ont été présumés coupables et ils ont eu de graves conséquences. Presque sans exception, les étudiants qui étaient restés sur le toit ont été radiés de leur université respective et ceux qui ont été reconnus coupables de délits ont probablement été expulsés du Japon. Des rêves d'études, des années de préparation et l'éventualité d'un emploi futur au Japon ont été anéantis en un instant. Maintenant, je vais vous dire ce qui est arrivé à ces trois amis. Celui qui est resté sur le toit a été expulsé de l'université japonaise pour laquelle il avait tellement travaillé pour être accepté et a été contraint de rentrer chez lui. L'ami qui avait quitté la fête ce soir-là avec John a fini ses études au Japon et a obtenu d'autres diplômes de deux universités de haut niveau aux États-Unis. Sa carrière l'a ramené en Asie où il a connu une immense réussite professionnelle. À ce jour, il reste reconnaissant envers John pour son courage exemplaire. Quant à John, les conséquences dans sa vie ont été incommensurables. Son séjour au Japon, cette année-là, l'a conduit à un mariage heureux et par la suite à la naissance de deux fils. C'est un homme d'affaires qui a très bien réussi et on lui a récemment confié un poste de professeur dans une université japonaise. Imaginez combien sa vie aurait été différente s'il n'avait pas eu le courage de quitter la fête en ce soir décisif au Japon. Jeunes gens, il y aura des moments où, comme John, vous devrez faire preuve de courage sous les yeux de vos camarades, au risque de subir les railleries et de vous trouver dans l'embarras. De plus, à votre époque, les combats avec l'adversaire seront également menés sur un champ de bataille silencieux et solitaire, devant un écran. La technologie, accompagnée de ses avantages substantiels, apporte aussi des défis auxquels n'ont pas été confrontées les générations précédentes. Un récent sondage national a montré que les adolescents d'aujourd'hui ne sont pas seulement tentés chaque jour à des niveaux alarmants à l'école, mais aussi dans le cyberespace. Il a révélé que les adolescents qui étaient exposés sur les sites de réseaux sociaux à des images de consommation de boissons ou de drogues étaient 3 à 4 fois plus susceptibles d'en consommer. En commentant le sondage, un ancien ministre américain a déclaré « Ce sondage de l'année révèle une nouvelle forme de pression puissante venant des camarades, la pression numérique. Cette pression dépasse le cercle des amis et des fréquentations de l'enfant. Elle envahit le foyer et la chambre de l'enfant via l'Internet. Faire preuve d'un juste courage sera souvent aussi subtil que le choix de cliquer ou de ne pas cliquer. On enseigne aux missionnaires d'en prêcher mon évangile. Ce que vous décidez de penser et de faire quand vous êtes seul et que vous croyez que personne ne vous voit, donne une idée précise de votre vertu. Soyez courageux, soyez fort, tenez-vous en des lieux saints et ne vous laissez pas ébranler. Jeunes gens, je vous promets que le Seigneur vous donnera du pouvoir. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. Il vous récompensera pour votre courage et votre conduite juste, en vous accordant le bonheur et la joie. Ce genre de courage sera la conséquence de votre foi en Jésus-Christ et en son expiation, de vos prières et de votre obéissance au commandement. N. Eldon Tanner a déclaré « Un jeune garçon dans la cour de l'école peut exercer une influence extrêmement bénéfique. » Un jeune homme peut faire énormément de bien dans une équipe de football, sur un campus ou parmi ses collègues de travail en vivant l'évangile, en honorant sa prêtrise et en défendant le bien. Il vous arrivera souvent d'être critiqué et de subir des moqueries, même par ceux qui pensent comme vous, bien qu'ils vous respectent probablement parce que vous agissez bien. Mais souvenez-vous que le Seigneur lui-même a été tourmenté et a subi des moqueries, qu'on a craché sur lui et qu'il a finalement été crucifié parce que sa conviction restait inébranlable. Avez-vous jamais pris le temps de réfléchir à ce qui serait arrivé s'il avait faibli et avait dit « Oh, à quoi bon ?» et avait abandonné sa mission ? Voulons-nous être des lâcheurs ou voulons-nous être de vaillants serviteurs en dépit de toute l'opposition et du mal qu'il y a dans le monde ? Ayons le courage de nous lever afin d'être comptés parmi les disciples fidèles et dévoués du Christ. Je vous invite à vous qualifier comme l'ont fait les 2000 jeunes soldats en étant vaillants dans votre courage comme de dignes détenteurs de la prêtrise. Souvenez-vous que ce que vous faites, les endroits où vous allez et ce que vous voyez formera ce que vous deviendrez. Qui voulez-vous devenir? Devenez un diacre, un instructeur, un prêtre digne. Fixez-vous l'objectif d'être digne d'entrer dans le temple maintenant et de recevoir votre prochaine ordination à l'âge voulu pour recevoir finalement la prêtrise de Melchisédek. Cette voie de la justice vous permettra de recevoir l'aide divine. Le Seigneur a déclaré, « Le pouvoir de la divinité se manifeste dans ses ordonnances. » Vos parents, vos dirigeants de la prêtrise et les priorités énoncées par les prophètes dans les fascicules du devoir envers Dieu et Jeunes Soyez Forts vous guideront. Le président Monson a déclaré dernièrement, « Il nous faut du courage pour prendre les décisions avec sagesse. Le courage de dire non. Le courage de dire oui. Je vous supplie de prendre la décision dès maintenant de ne pas dévier du chemin qui nous mènera à notre but, la vie éternelle avec notre Père Céleste. » Tout comme les 2000 soldats ont répondu aux cris de guerre de leurs dirigeants et l'amant et ont rassemblé leur courage avec vaillance, vous aussi pouvez faire de même en suivant votre dirigeant prophète Thomas S. Monson. Mes jeunes détenteurs de la prêtrise d'Aaron, pour terminer, je témoigne de Dieu le Père et de Jésus-Christ et des paroles de Joseph Smith. Frères, ne persévérerons-nous pas dans une si grande cause? Allez de l'avant et pas en arrière. Courage, frères, et en avant vers la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Quand j'étais jeune homme, ma famille traversait les montagnes rocheuses d'Amérique pour rendre visite à nos grands-parents. La route débutait sur les plaines couvertes d'armoises, gravissait les flancs abrupts et couverts de pins de la montagne, pour émerger finalement au sommet dans des bosquets de trembles et des prairies d'altitude d'où l'on pouvait voir presque à l'infini. Mais cette belle route n'était pas sans danger. La plus grande partie de la grande route était creusée à flanc de montagne. Afin de protéger les voyageurs, les constructeurs avaient installé des glissières et des panneaux signalant « danger, chute de pierre ». Nous avons remarqué que ces avertissements étaient largement fondés. Des pierres et des blocs de roche se jonchaient le bord du lit de la rivière, loin au-dessous de la route. De temps à autre, nous voyions des voitures écrasées au fond du canyon, témoins tragiques de conducteurs qui avaient ignoré la mise en garde. Frères, chacun de vous a reçu ou va bientôt recevoir le serment et l'alliance de la prêtrise de Melchisédek. Dans cette alliance est incorporé un glorieux voyage qui débute lorsque nous recevons les prêtrises inférieures et supérieures, se poursuit lorsque nous acquittons diligemment nos appels et grimpe toujours plus haut vers les panoramas de Dieu les plus grandioses, jusqu'à ce que nous recevions tout ce que le Père a. Le concepteur sage de cette route céleste a dressé des panneaux invitant à la prudence pendant notre voyage. Le serment et l'alliance de la prêtrise contiennent ces avertissements à méditer. Je cite, « Je vous donne maintenant le commandement de prendre garde à vous-même. » Fin de citation. Pourquoi Dieu nous demande-t-il donc de prendre garde? Il sait que Satan est un être réel qui cherche à entraîner notre âme dans le gouffre de misère. Dieu sait aussi qu'à l'intérieur de chaque détenteur de la prêtrise est tapis un homme naturel, enclin à s'égarer. Ainsi, les prophètes nous invitent-ils à nous dépouiller du vieil homme et à revêtir Christ, par la foi, le repentir, les ordonnances salvatrices et le respect quotidien de l'Évangile. Tandis qu'ils montent le sentier de la prêtrise, chaque garçon, chaque homme peut être entraîné vers le bas s'il ne prend pas garde. Avez-vous déjà été étonné et triste de la chute inattendue d'un homme remarquable, d'un missionnaire relevé depuis peu, d'un dirigeant de la prêtrise respecté ou d'un membre aimé de la famille? L'histoire tragique de David dans l'Ancien Testament est un exemple de pouvoir dilapidé de la prêtrise. Même s'il avait vaincu Goliath dans sa jeunesse et qu'il avait mené une vie juste pendant des décennies, le roi prophète était encore spirituellement vulnérable. Au moment crucial où, depuis son toit, il a vu la belle Bathsheba se baigner, il n'y avait aucun maître nageur moral présent pour crier « Prends garde, David, insensé !» parce qu'il n'a pas réussi à prendre garde à lui-même et à agir selon les murmures de l'esprit il a perdu sa famille éternelle. Frères, si le puissant David lui-même a pu être balayé de la route de l'exaltation, comment pouvons-nous échapper à un sort similaire? Les deux glissières jumelles de la conversion personnelle profonde et des relations familiales fortes nous aident à rester sur la grande route céleste. Satan, qui le sait, déloge des blocs de roche capables d'écraser les conversions et de faire éclater la famille pour qu'ils tombent en travers notre sentier de la prêtrise. Heureusement, Jésus-Christ et ses prophètes ont placé des panneaux danger le long du chemin. Ils nous mettent constamment en garde contre l'orgueil qui broie notre conversion et contre des péchés qui brisent des familles comme la colère, l'avidité et la convoitise. Dans l'Ancien Testament, Moïse conseille « Garde-toi d'oublier l'Éternel ». Dans notre vie trépidante et saturée de loisirs, les hommes sont prompts à oublier le Seigneur, à commettre l'iniquité et à se laisser entraîner par le malin. Une conversion pour rester en sécurité sur le sentier de la prêtrise, malgré les chutes de pierre des tentations, je vous rappelle 6 principes fondamentaux qui approfondissent la conversion et fortifient la famille. D'abord, la prière ouvre toujours la porte de l'aide divine afin de vaincre Satan. Chaque fois qu'il avertit ses détenteurs de la prêtrise de prendre garde, car Satan désire les passer au crible, Jésus préconise la prière comme antidote à la tentation. Le président Monson enseigne, je cite, « Si l'un de nous n'a pas encore suivi le conseil de prier toujours, il n'y a pas de meilleur moment pour commencer que maintenant. Un homme n'est jamais plus grand que lorsqu'il est à genoux. » Fin de citation. Deuxièmement, l'étude des Écritures anciennes et modernes nous met en relation avec Dieu. Le Seigneur a averti les membres de l'Église de, je cite, « prendre garde à la manière dont ils respectent les prophètes, de peur qu'ils ne les prennent à la légère et ne tombent par là sous la condamnation, ne trébuchent et ne tombent. » Fin de citation. Afin d'éviter cette condamnation qui donne à réfléchir, nous devrions sonder diligemment les Écritures ainsi que les magazines et les sites de l'Église qui nous permettent de recevoir des conseils intimes et personnels du prophète choisi du Seigneur. Troisièmement, participer dignement aux ordonnances nous prépare à prendre l'Esprit Saint pour guide. Lorsqu'il dit « Prenez garde d'être trompés », le Sauveur promet que nous ne le serons pas si nous recherchons avec ferveur les meilleurs dons de l'Esprit. Quand ils prennent la Sainte Cène dignement chaque semaine, les membres se qualifient pour avoir toujours son Esprit avec eux. En participant à l'œuvre du Temple, nous pouvons recevoir une plénitude du Saint-Esprit. Quatrièmement, les manifestations d'amour véritables sont au cœur de la conversion personnelle et des relations familiales. Le roi Benjamin enseigne « Prenez garde qu'il ne s'élève des querelles parmi vous. N'oubliez jamais que Satan est le père des querelles et cherche à pousser les membres de la famille à se battre et à se quereller. Frères, si nous infligeons des sévices émotionnels, verbaux ou physiques à l'un des membres de notre famille, alors nous perdons le pouvoir de la prêtrise. » Choisissez de maîtriser votre colère. Les membres de la famille doivent entendre des bénédictions de nos lèvres, pas des malédictions. Nous devons exercer notre influence par la persuasion, la longanimité, la gentillesse, la douceur, l'amour sincère, la bonté et la charité. Cinquièmement, l'obéissance à la loi de la dîme est un élément essentiel de la foi et de l'unité familiale. Parce que Satan utilise l'avidité et la recherche des biens matériels pour balayer les familles de l'autoroute céleste, Jésus a conseillé « Gardez-vous avec soin de toute convoitise. » La convoitise est contenue lorsque nous anticipons notre revenu, payons une dîme honnête et une offrande de jeûne généreuse, établissons le budget de nos dépenses nécessaires, évitons les dettes, épargnons pour nos besoins futurs et devenons temporellement autonomes. Dieu nous promet « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Sixièmement, le respect total de la loi de chasteté nous confère la confiance de nous tenir en la présence de Dieu, avec le Saint-Esprit comme compagnon constant. Satan assaille la vertu et le mariage avec une avalanche d'obscénité. Quand le Seigneur a averti les adultères de prendre garde et de se repentir rapidement, sa définition comprenait les pensées lascives qui précèdent l'acte physique de l'adultère. Les prophètes et apôtres modernes ont parlé souvent et clairement du fléau de la pornographie. Le président Hinckley enseignait, je cite, « La pornographie est comme une tempête qui détruit personnes et familles, réduisant totalement en ruine ce qui était sain et beau. Maintenant, mes frères, le moment est venu pour ceux d'entre nous qui sont ainsi asservis de sortir du bourbier. » Fin de citation. Si vous êtes tenté de violer la loi de chasteté d'une façon ou d'une autre, suivez l'exemple de Joseph d'Égypte qui s'enfuit au dehors. Il y a 6 principes fondamentaux donc, qui permettent aux dirigeants de prêtrise de continuer d'avancer en sécurité sur l'autoroute vers le ciel entre les glissières spirituelles de la conversion personnelle et des relations familiales. Jeunes gens, l'obéissance à ces principes vous préparera aux alliances du Temple, au service missionnaire à plein temps et au mariage éternel. Marie et Père, le respect de ces principes vous qualifiera pour présider votre foyer dans la justice, pour être le dirigeant spirituel de votre famille, avec votre femme comme partenaire égal. Le chemin de la prêtrise est un parcours rempli de joie. Pour en revenir à mon expérience de jeune homme, je me souviens d'une traversée des montagnes rocheuses en particulier. Après avoir dépassé le panneau « Attention, chute de pierre », mon père a remarqué que des petits cailloux tombaient sur la chaussée devant nous. Il a vite freiné, à temps pour voir un rocher de la taille d'un ballon de basket débouler devant nous. Il a attendu que les pierres aient cessé de tomber pour reprendre la route. L'attention constante de mon père et sa réaction immédiate ont permis à notre famille d'arriver saine et sauve à destination. Frères, Satan cherche à détruire l'âme des hommes. Si notre âme s'égare au bord d'un gouffre spirituel, arrêtez-vous tout de suite et revenez sur le sentier. Si vous avez l'impression que votre âme se trouve écrasée au fond du gouffre, au lieu de se trouver en hauteur sur le sentier de la prêtrise, parce que vous avez ignoré les panneaux, dangers et péchés, je témoigne que, grâce à un repentir sincère et au pouvoir du sacrifice expiatoire de Jésus-Christ, vous pouvez être relevé et ramené sur la grande route céleste de Dieu. Jésus enseigne, gardez-vous de l'hypocrisie. Si vous êtes indigne d'exercer la prêtrise, allez trouver votre évêque qui peut vous aider à vous repentir. Prenez courage, car si le Sauveur affirme « Prenez garde et abstenez-vous du péché », il promet aussi « Moi, le Seigneur, je vous pardonne, allez et ne péchez plus ». J'invite chaque garçon et chaque homme à rester sur le sentier de la prêtrise en approfondissant sa conversion et en fortifiant sa famille. Les prières, les écritures et les ordonnances approfondissent la conversion. L'amour, la dîme et la chasteté fortifient la famille. Évitez la tragédie en prêtant attention aux panneaux d'avertissement spirituels placés par Dieu et les prophètes le long de notre route. Efforcez-vous de suivre l'exemple parfait de Jésus-Christ qui subit des tentations mais n'y prêta pas attention. Je promets que si les hommes respectent l'alliance de la prêtrise et prennent garde à eux-mêmes, nous et nos familles arriverons sains et saufs à notre destination exaltée dans le royaume céleste. J'en témoigne au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Thank you, brethren.
Merci, frère. Le chœur et l'assemblée vont maintenant chanter vers Sion, cité promise. Après le cantique, j'aurai l'honneur de m'adresser à vous. Après mon discours, nous entendrons Henri Behring, premier conseiller dans la première présidence.
Il y a de nombreuses années, j'ai décidé avec quelques collègues capitaines d'aviation de réaliser mon rêve d'enfant, restaurer un avion d'autrefois. Nous avons acheté ensemble un vieux Piper Cub de 1938 et avons commencé à travailler pour lui redonner son allure initiale. C'était une œuvre d'amour. Ce projet revêtait une signification particulière pour moi parce que j'avais appris à piloter sur un avion semblable quand j'étais jeune homme. Cet avion a été construit pour la première fois à peine 35 ans après le célèbre premier vol des frères Wright. Quand j'y pense, je me sens très vieux. Le moteur n'avait pas de démarreur électrique. Pendant que vous amorciez le moteur depuis le cockpit, quelqu'un au sol devait empoigner l'hélice et la faire tourner de toutes ses forces jusqu'à ce que le moteur démarre. Chaque démarrage d'un moteur était un moment d'excitation et de bravoure. Une fois l'avion dans les airs, il était évident que le Piper Cub n'était pas conçu pour la vitesse. En fait, lorsque les vents contraires étaient forts, on avait l'impression de ne plus avancer du tout. Je me rappelle avoir piloté en compagnie de mon fils adolescent au-dessus de l'autoroute en Allemagne, et comme on pouvait s'y attendre, les voitures au-dessous nous dépassaient sans difficulté. Mais ce que j'ai pu aimer ce petit avion, c'était le moyen idéal de découvrir les merveilles et la beauté du vol. On pouvait entendre, ressentir, sentir, goûter et voir tous les éléments qui composent le vol. Les frères Wright l'ont dit comme ceci. Rien ne vaut ce que vivent les aviateurs lorsqu'ils sont portés dans les airs par de grandes ailes blanches. Par comparaison, cette année, j'ai eu le plaisir de voler dans un avion de combat sophistiqué, le F-18, avec les mondialement célèbres Blue Angels de la patrouille acrobatique de la marine américaine. C'était comme s'envoler au-dessus et le long de mes souvenirs parce qu'exactement 50 ans plus tôt, au jour près, j'avais terminé mon entraînement de pilote de combat dans l'armée de l'air. Mon vol sur le F-18 était bien sûr totalement différent de tout ce que j'avais vécu avec le Piper Cub. J'ai vu une beauté plus dynamique du vol. C'était comme l'application plus parfaite des lois existantes de l'aérodynamique. Cependant, voler avec les Blue Angels m'a aussi rapidement rappelé que le métier de pilote de chasse est une affaire de jeunes. Pour citer à nouveau les frères Wright, la sensation de voler est plus que tout une sensation de paix parfaite, mêlée d'excitation qui tend chaque nerf à l'extrême. De plus, voler avec les Blue Angels présentait une manière tout à fait différente d'avoir des anges tout autour de vous pour vous soutenir. Si vous me demandiez lequel de ces deux vols j'ai préféré, je ne suis pas sûr de pouvoir vous répondre. Il est évident qu'ils étaient très différents. C'est le moins qu'on puisse dire. Et pourtant, à d'autres égards, ils se ressemblaient beaucoup. J'ai ressenti l'excitation, la beauté et la joie du vol dans les deux, le Piper Cub et le F-18. Dans les deux, j'entendais l'appel du poète de se libérer des emprises de la terre pour danser dans le ciel sur les ailes argentées d'une grande voile. Vous devez sûrement vous demander quel rapport il y a entre ces deux expériences aéronautiques entièrement différentes et notre réunion d'aujourd'hui et la prêtrise que nous avons l'honneur de détenir et le service de la prêtrise que tous nous aimons tant. Frères, ne trouvez-vous pas que nos expériences individuelles de service dans la prêtrise sont toutes bien différentes? Au sens figuré, certains parmi vous volent dans des F-18, tandis que d'autres volent dans des Piper Cubs. Certains d'entre vous vivent dans des paroisses et des pieux où chaque appel, depuis l'assistant du chef de groupe des grands prêtres jusqu'au secrétaire du Collège des diacres, est rempli par un détenteur de la prêtrise actif. Vous avez la bénédiction d'être dans une paroisse où les postes sont bien pourvus. D'autres parmi vous vivent dans des régions du monde où il n'y a qu'une petite poignée de membres de l'Église et de détenteurs de la prêtrise. Vous vous sentez peut-être isolé et accablé par le poids de tout ce qu'il y a à accomplir. Pour vous, il est peut-être nécessaire de mettre beaucoup à la main sous le capot pour que le moteur du service de la prêtrise démarre. Vous pouvez parfois avoir même l'impression que votre branche ou votre paroisse n'avance pas du tout. Cependant, quelles que soient vos responsabilités ou votre situation, nous savons, vous et moi, qu'il y a toujours une joie toute particulière qui découle du service dévoué dans la prêtrise. J'ai toujours aimé voler, que ce soit dans un Piper Cub, un F-18 ou n'importe quel autre avion. Dans le Piper Cub, je ne me plaignais pas de sa lenteur et dans le F-18, je ne ronchonnais pas quand les tensions résultant des manœuvres acrobatiques révélaient impitoyablement la réalité de mon grand âge. Oui, rien n'est jamais parfait. Oui, c'est facile de trouver matière à se plaindre. Mais, frères, nous sommes détenteurs de la sainte prêtrise selon l'ordre du Fils de Dieu. Chacun de nous a reçu la prêtrise de Dieu par l'imposition des mains. Nous, ses serviteurs sur terre, avons reçu l'autorité et la responsabilité d'agir en son nom. Que ce soit dans une grande paroisse ou dans une petite branche, nous sommes appelés à servir, à faire du bien et à agir en tout pour le bien de tous et de tout ce qui nous est confié à nos soins. Pourrait-il y avoir quelque chose de plus exaltant que cela ? Comprenons, apprécions et éprouvons la joie du service dans la prêtrise. Mon amour du pilotage a influencé le cours de ma vie. Mais aussi vivifiante et heureuse qu'aient pu être mes expériences de pilote, celles que j'ai eues comme membre de cette Église ont été beaucoup plus profondes, plus joyeuses et beaucoup plus enrichissantes. En me plongeant dans le service de l'Église, j'ai ressenti la toute-puissance de Dieu, ainsi que ses tendres miséricordes. En tant que pilote, j'ai touché les cieux. En tant que membre de l'Église, j'ai ressenti l'étreinte céleste. De temps à autre, cela me manque de ne pas être assis dans un cockpit, mais mon service dans l'Église, aux côtés de mes frères et sœurs, compense largement. Je ne voudrais manquer pour rien au monde la paix et la joie sublime qui découlent du petit rôle que je joue dans cette grande cause. Non, pour rien au monde. Aujourd'hui, un groupe nombreux de détenteurs de la prêtrise est assemblé. C'est notre joie et notre bénédiction de servir le Seigneur et nos semblables, de consacrer ce que nous avons de meilleur en nous à la noble cause de l'édification des autres et du royaume de Dieu. Nous savons et comprenons que la prêtrise est le pouvoir et l'autorité éternelle de Dieu. Nous pouvons aisément réciter cette définition. Cependant, comprenons-nous réellement l'importance de ce que nous disons ? Je répète, la prêtrise est le pouvoir et l'autorité éternelle de Dieu. Pensez-y. C'est par la prêtrise que Dieu a créé et qu'il gouverne les cieux et la terre. C'est par ce pouvoir qu'il rachète et exalte ses enfants, réalisant l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. La prêtrise, comme l'a expliqué Joseph Smith, le prophète, est le canal par lequel le Tout-Puissant a commencé à révéler sa gloire à la création de cette terre, par lequel il a continué à se révéler aux enfants des hommes jusqu'à présent, et par lequel il fera connaître ses desseins jusqu'à la fin des temps. Notre Père Céleste Tout-Puissant nous a confié l'autorité de la prêtrise à nous, êtres mortels, qui par définition sommes imparfaits. Il nous accorde l'autorité d'agir en son nom pour le salut de ses enfants. Par ce pouvoir, nous sommes autorisés à prêcher l'Évangile, à administrer les ordonnances du salut, à édifier le royaume de Dieu sur la terre et à bénir et servir notre famille et notre prochain. Telle est la prêtrise sacrée que nous détenons. On ne peut pas l'acheter ni la commander. La position sociale, la richesse ou l'influence ne peuvent modifier, influencer ou forcer l'utilisation de ce pouvoir. C'est un pouvoir spirituel, régi par des lois célestes. Il tire son origine de notre Père Céleste à tous. Son pouvoir ne peut être contrôlé et dirigé que selon les principes de la justice, non pas selon notre suffisance. Le Christ est la source de toute autorité et de tout pouvoir réel de la prêtrise sur terre. C'est son œuvre à laquelle nous avons l'honneur de participer. Nul ne peut apporter son aide à cette œuvre s'il n'est humble et plein d'amour, et n'a la foi, l'espérance et la charité, étant modéré dans toutes les choses qui seront confiées à ses soins. Nous n'agissons pas pour notre profit personnel, mais nous cherchons à servir et à édifier nos semblables. Nous ne dirigeons pas par la force, mais par la persuasion, par la longanimité, par la gentillesse et la douceur, et par l'amour sincère. La prêtrise du Dieu Tout-Puissant est accessible à tous les hommes dignes, où qu'ils soient, quelle que soit leur ascendance, quelle que soit la modestie de leur situation, dans les coins les plus proches ou les plus reculés du globe. Elle est accessible sans argent et sans coût matériel. Pour paraphraser Ésaïe, le prophète d'autrefois, tous ceux qui ont soif peuvent venir aux eaux, et aucun argent n'est nécessaire pour venir et manger. Grâce à l'expiation éternelle et insondable de notre Sauveur Jésus-Christ, la prêtrise de Dieu peut être accessible même si vous avez trébuché et vous êtes montré indigne dans le passé. Grâce au processus de raffinement et de purification spirituelle du repentir, vous pouvez vous lever et briller. Grâce à l'amour sans limite et miséricordieux de notre Sauveur et Rédempteur, vous pouvez lever les yeux, devenir pur et digne de vous transformer en fils de Dieu juste et noble, digne détenteur de la prêtrise la plus sacrée du Dieu Tout-Puissant. J'éprouve une certaine tristesse pour les personnes qui ne saisissent pas et n'apprécient pas la grandeur et l'honneur de la prêtrise. Elles sont comme les passagers d'un avion qui passent leur temps à se plaindre de la taille du paquet de cacahuètes, tandis qu'elles s'élèvent dans les airs, bien au-dessus des nuages. Quelque chose pour lequel les rois d'autrefois auraient tout donné pour pouvoir l'essayer, ne serait-ce qu'une fois. Frères, nous sommes bénis d'être les humbles réceptacles de ce grand pouvoir et de cette grande autorité de la prêtrise. Levons les yeux et regardons. Prenons conscience et acceptons cette chance pour ce qu'elle est vraiment. Nous connaîtrons la vraie signification de la révélation par un service juste, aimant et dévoué de la prêtrise. J'irai devant votre face, je serai à votre droite et à votre gauche, et mon esprit sera dans votre cœur, et mes anges seront tout autour de vous pour vous soutenir. Accueillons et comprenons la grandeur et l'honneur de la prêtrise. Acceptons et aimons les responsabilités qui nous sont confiées. Que ce soit dans notre foyer et dans nos unités de l'Église, qu'elles soient grandes ou petites. Progressons constamment en justice, en dévouement et en service dans la prêtrise. Trouvons la joie de servir dans la prêtrise. La meilleure manière de faire cela est de mettre en pratique les principes de la connaissance, de l'obéissance et de la foi. Cela signifie que, premièrement, nous devons connaître et assimiler la doctrine de la prêtrise telle qu'elle est énoncée dans la parole révélée de Dieu. Il est important de comprendre les alliances et les commandements qui régissent la prêtrise. Ensuite, faisons preuve de sagesse et agissons avec constance et honneur selon cette connaissance acquise. En obéissant aux lois de Dieu, en disciplinant notre esprit et notre corps, et en mettant nos actions au diapason des modèles de justice enseignés par les prophètes, nous connaîtrons la joie du service de la prêtrise. Et enfin, approfondissons notre foi au Seigneur Jésus-Christ. Prenons sur nous son nom et engageons-nous chaque jour à suivre la voie qui nous est tracée en tant que disciples. Que nos œuvres rendent notre foi parfaite. Par une vie de disciples, nous pouvons nous perfectionner, pas à pas, en servant notre famille, notre prochain et Dieu. Quand nous servons dans la prêtrise de tout notre cœur, de tout notre pouvoir, de tout notre esprit et de toutes nos forces, nous avons la promesse de connaissance, de paix et de dons spirituels sublimes. Si nous honorons la sainte prêtrise, Dieu nous honorera et nous nous tiendrons innocents devant lui au dernier jour. Puissions-nous avoir des yeux pour voir et un cœur pour comprendre la grandeur et la joie de la prêtrise de notre grand Dieu. C'est là ma prière. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Je suis tellement reconnaissant pour cette chance de faire partie de cette réunion de prêtrise et d'entendre des témoignages aussi magnifiques et des enseignements aussi magnifiques. Cela me ramène. Il y a ici des diacres qui doivent écouter et se demander alors qu'ils viennent dans la prêtrise. Et voir avoir l'occasion de s'élever dans la prêtrise. Tout ce que j'ai pu accomplir en tant que détenteur de prêtrise, c'est parce que des individus qui me connaissaient ont vu des choses en moi que je ne pouvais pas encore voir. En tant que jeune père, j'ai prié pour savoir quelle contribution mes enfants pourraient apporter dans le royaume du Seigneur. Pour les garçons, je savais qu'ils pourraient avoir des responsabilités dans la prêtrise. Pour les filles, je savais qu'elles rendraient service en représentant le Seigneur. Tous feraient son œuvre. Je savais que chacun était unique et que le Seigneur leur avait donné des dons précis à utiliser à travers leur service. Je ne peux évidemment pas vous donner chaque père et chaque dirigeant de jeunes les détails de ce que vous avez de mieux à faire. Mais je peux vous promettre que vous serez une bénédiction pour eux si vous les aidez à prendre conscience des dons spirituels avec lesquels ils sont nés. Chaque personne est différente et a une contribution différente à apporter. Personne n'est destiné à échouer. En cherchant la révélation, pour voir les dons que Dieu voit en eux, dans la prêtrise, tout particulièrement les plus jeunes, vous aurez la bénédiction d'élever leur vision du service qu'ils peuvent accomplir. Grâce à vos conseils, les personnes que vous dirigez seront à même de voir, de désirer leur potentiel de service dans le royaume de Dieu et de croire qu'elles peuvent l'atteindre pleinement. Avec mes propres enfants, j'ai prié pour recevoir la révélation concernant la manière dont je pourrais les préparer individuellement à des occasions spécifiques de servir Dieu. J'ai ensuite essayé de les aider à visualiser cet avenir, à l'espérer, à y travailler. J'ai gravé sur une planche, pour chacun de mes fils, la situation d'une écriture qui décrit ses dons à lui et une illustration représentant ses dons. En dessous de l'image et de la légende, j'ai gravé la date du baptême et des ordinations aux offices de la prêtrise de chaque garçon, avec sa taille, indiquée à la date de chaque événement. Je vais décrire les planches que j'ai gravées pour chacun de mes fils, afin de l'aider à voir ses dons spirituels et ce qu'il pourrait faire pour contribuer à l'œuvre du Seigneur. Comme moi, vous pouvez être inspiré pour percevoir les dons particuliers et les possibilités uniques de chacun des jeunes que vous aimez et que vous dirigez. Quand mon fils aîné est devenu diacre et aigle scout, l'image d'un aigle m'est venue à l'esprit quand j'ai pensé à lui et à son avenir. Nous vivions en Idaho, non loin du mont South Teton, où nous faisions des randonnées et regardions les aigles monter en flèche. Cette image mentale m'a fait penser aux paroles d'Ésaïe. On les a déjà citées dans cette conférence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. En fait, nous avions arrêté notre randonnée au pied du pic de South Teton parce que mon fils était fatigué. Il voulait s'arrêter et il avait demandé « Est-ce que je regretterai toujours que nous ne soyons pas arrivés au sommet ?»« Vas-y, toi. Je ne veux pas que tu sois déçu. » J'avais répondu « Je ne serai jamais déçu et tu ne regretteras rien non plus. » Nous nous souviendrons toujours que nous sommes montés ici ensemble. En haut de sa planche de mesure, j'ai sculpté un aigle et l'inscription « Sur des ailes d'aigle ». Quand il était missionnaire, mon fils est monté plus haut que je l'avais imaginé dans mes vœux les plus chers. Certaines des difficultés qu'il rencontrait dans le champ de la mission semblaient au-delà de sa portée. Pour le garçon que vous aidez, ce sera peut-être comme pour mon fils. Lorsqu'il prêchait l'Évangile dans une langue difficile, le Seigneur l'a élevé plus haut que ce que j'avais jugé possible. Je vous promets que si vous essayez de percevoir les possibilités dans la prêtrise de n'importe quel jeune homme, le Seigneur vous dira tout ce que vous avez besoin de savoir. Ce garçon peut avoir un potentiel qui dépasse même ce que le Seigneur vous révélera. Aidez-le à viser haut. Le garçon que vous encouragez peut sembler trop timide pour être un serviteur puissant dans la prêtrise. Lorsqu'il était petit, l'un de mes fils était si timide qu'il n'osait même pas parler à un caissier de magasin. Je m'inquiétais lorsque je priais concernant son avenir dans la prêtrise. Je me disais qu'il allait avoir des difficultés dans le champ de la prêtrise. J'ai été conduit vers un passage des Proverbes. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. J'ai sculpté l'assurance d'un lion sur sa planche, sous l'image d'une imposante tête de lion. En mission et dans les années qui ont suivi, Il a comblé l'espoir de ma sculpture. Mon fils, autrefois si timide, a prêché l'Évangile avec une grande conviction et a fait face aux dangers avec bravoure. Il a été grandi dans ses responsabilités de représentant du Seigneur. Cela peut se produire pour le jeune homme que vous dirigez. Vous devez renforcer sa foi, que le Seigneur peut le transformer, pour qu'il devienne un serviteur plus courageux que le garçon timide que vous voyez maintenant. Nous savons que le Seigneur donne de la hardiesse à ses serviteurs. Le jeune garçon qui, dans un bosquet, a vu Dieu le Père et son fils Jésus-Christ, Joseph, a été transformé en géant spirituel. Parley P. Pratt l'a vu quand Joseph Smith, le prophète, a réprimandé les ignobles gardes qui les retenaient captifs. Frère Pratt a écrit, « Soudain, il se leva et parla d'une voix de tonnerre, comme un lion rugissant, disant, dans la mesure où je peux m'en souvenir, les paroles suivantes. Je cite, « Silence, démon du gouffre infernal, au nom de Jésus-Christ, je vous réprimande et je vous commande de vous taire. Je ne vivrai pas un instant de plus pour entendre un pareil langage. Cessez ce genre de conversation, ou bien vous ou moi mourrons à l'instant. » Frère Pratt a écrit au sujet de cette expérience, « La dignité et la majesté, je ne les ai vues qu'une fois, tandis qu'elles étaient enchaînées à minuit dans un cachot d'un village perdu du Missouri. » Fin de citation. Le Seigneur donnera à ses serviteurs justes l'occasion d'être courageux comme des lions, lorsqu'ils parlent en son nom et en tant que témoins dans sa prêtrise. Un autre de mes fils, tout jeune déjà, avait un grand cercle d'amis qui recherchait souvent sa compagnie. Il nouait facilement des liens avec les gens. En essayant de voir ce que serait sa contribution au royaume de Dieu dans un esprit de prière, j'ai senti qu'il aurait le pouvoir de rapprocher les gens dans l'amour et l'unité. Cela m'a conduit au récit de Doctrine et Alliance, qui décrit les efforts des anciens de la prêtrise pour édifier Sion au Missouri, sous les acclamations des anges qui voyaient leurs actions. Cela demandait beaucoup de sacrifices. La révélation de Doctrine et Alliance dit, je cite, « Vous êtes bénis, car le témoignage que vous avez rendu est inscrit dans le ciel pour que les anges le contemplent. Ils se réjouissent à votre sujet, et vos péchés vous sont pardonnés. » Sur la planche de mesure de mon fils, j'ai gravé, « Les anges se réjouissent à ton sujet. » Cette grande capacité de mon fils de rassembler et d'influencer les gens a perduré bien après ses années d'école. Avec d'autres détenteurs de la prêtrise, il a organisé des activités de pieux qui ont donné aux jeunes de sa région la foi de persévérer et même de triompher de situations difficiles. En édifiant la foi de ces jeunes gens et jeunes filles, il a aidé à construire des avant-postes de Sion dans les centres urbains d'Amérique. J'ai sculpté des anges sonnant de la trompette. C'était peut-être pas exactement ainsi qu'ils le font, mais c'était plus facile à sculpter qu'un cri. Les anges se réjouissent quand les dirigeants de la prêtrise du monde entier édifient Sion dans leur paroisse, leurs pieux et leurs missions. Et ils se réjouiront au sujet des jeunes gens et des jeunes filles que vous aidez à édifier Sion, où qu'ils se trouvent et quelle que soit leur situation. Sion est le produit de gens qui sont liés par alliance et par amour. Je vous invite à aider vos jeunes à s'y joindre. Pour l'un de mes fils, j'ai été poussé à sculpter un soleil et les paroles de la prière d'intercession du Sauveur. Or, la vie éternelle, vers la fin de son ministère, dans la condition mortelle, le Sauveur a adressé cette prière à son Père. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Mon fils a œuvré dans la prêtrise sur 3 continents. Mais plus important encore, dans son foyer et parmi sa famille. Il a construit sa vie autour d'elle. Il travaille près de chez lui et rentre souvent manger le midi avec sa femme et leurs enfants les plus jeunes. Sa famille habite près d'où nous vivons, ma femme et moi. Ils s'occupent de notre jardin comme si c'était le leur. Ce fils vit non seulement pour obtenir la vie éternelle, mais également pour être entouré éternellement de membres de sa famille reconnaissants. L'éternel, c'est de vivre dans l'unité, en famille, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La vie éternelle n'est possible que grâce aux clés de la prêtrise de Dieu qui ont été rétablies par l'intermédiaire de Joseph Smith, le prophète. Montrez constamment ce but aux jeunes que vous dirigez et le plus grand cadeau que vous puissiez leur faire. Vous le ferez principalement par l'exemple dans votre propre famille. La famille des jeunes que vous dirigez n'est peut-être pas dans l'Église, mais je vous lance le défi de les aider à ressentir et à vouloir l'amour de leur famille des deux côtés du voile. Les planches de mesure que j'ai décrites ne sont qu'un moyen d'aider les jeunes à percevoir la grandeur que Dieu voit en eux et le service unique qui les prépare à rendre. Il vous aidera à voir comment le faire pour vos enfants ou pour d'autres jeunes, mais en cherchant, par la prière, à entrevoir vous-même cet avenir et à le communiquer aux jeunes. Vous saurez que Dieu aime chacun de ses enfants et qu'il voit des dons grands et uniques en chacun d'eux. En tant que père, j'ai eu la bénédiction de voir pour mes filles, comme pour mes fils, un avenir brillant dans le royaume de Dieu. Quand j'ai prié pour être guidé, le Seigneur m'a montré un moyen d'aider mes filles à prendre conscience de la confiance que Dieu avait placée en elles, en tant que servante pouvant édifier son royaume. Quand mes filles étaient jeunes, j'ai vu que nous pouvions les aider à ressentir l'amour des personnes qui se trouvent au-delà du voile, à travers les générations. Je savais que l'amour naît du service et qu'il inspire l'espérance de la vie éternelle. Nous avons donc sculpté des planches à pain sur lesquelles nous avons mis une miche faite maison et nous sommes allés ensemble les offrir à des veuves, à des veufs et à des familles. La légende que j'avais gravée sur chaque planche était « J'aime et j'espère » en français. Et j'espère que l'évidence de leur don spirituel unique ne sont pas restées seulement sur les planches que j'avais sculptées. Elle était plus visible encore lorsque nous les distribuions aux personnes qui, dans leur peine ou leur deuil, avaient besoin de la confirmation que l'amour du Sauveur et son expiation pouvaient produire une espérance d'une pureté parfaite. C'est là la vie éternelle pour mes filles et pour chacun de nous. Vous demandez peut-être, Frère Ring, est-ce que vous êtes en train de dire que je dois apprendre à sculpter? La réponse est non. Si j'ai appris à sculpter, c'est grâce à l'aide d'un guide aimable et doué, Elder Boyd K. Packer. Avant qu'il soit président du Collège des 12, le peu de compétences que j'ai acquises est attribué à son grand don de sculpteur et à sa patience d'enseignant. Seul le ciel peut envoyer un tel instructeur. Mais il y a beaucoup de manières de façonner le cœur des enfants, sans sculpter des planches en bois pour eux. Par exemple, les nouvelles technologies de communication permettent d'envoyer des messages de foi et d'espérance à de très grandes distances, instantanément et à peu de frais ou gratuitement. Chaque soir, ma femme m'aide à faire cela. Nous commençons par parler au téléphone avec nos petits-enfants. Nous leur demandons de raconter des histoires, de réussites personnelles et de services rendus. Nous les invitons aussi à nous envoyer des photos, des activités de la journée. Nous utilisons ces photos pour illustrer quelques paragraphes. Nous ajoutons un ou deux versets du livre de Mormon. Les filles et Mormons ne seraient peut-être pas très impressionnées par la qualité spirituelle de ce que nous écrivons, ni par les efforts limités que nécessite la création de ce que nous appelons le journal familial, les petites plaques. Mais ces efforts nous apportent des bénédictions à ma femme et à moi. Nous nous sentons inspirés dans le choix du passage d'écriture. On ne parle pas beaucoup des réussites en football. Mais nous sentons inspirés dans le choix des passages d'écriture et des brefs messages de témoignages que nous écrivons. Et nous voyons dans la vie de nos petits-enfants des preuves que leur cœur se tourne vers nous et vers le Sauveur. Il y a d'autres moyens de se tourner vers les autres. Vous impliquez déjà dans beaucoup de ces moyens, vos habitudes, en matière de prière et de lecture des Écritures en famille, créeront davantage de souvenirs durables et de plus grands changements de cœur que ce que vous imaginez peut-être maintenant. Même des activités apparemment temporelles, comme une manifestation sportive ou un film vu en commun, peuvent façonner le cœur d'un enfant. Ce qui compte, ce n'est pas l'activité, mais les sentiments qu'elle suscite. J'ai découvert un bon moyen de choisir des activités qui ont le potentiel de faire une grande différence dans la vie d'un jeune. C'est qu'il propose l'activité d'après un centre d'intérêt, dont il ressente qu'il leur est venu comme un don de Dieu. Mon expérience m'a montré que c'est possible. Lorsque je suis devenu diacre, à 12 ans, je vivais dans le New Jersey, à 80 kilomètres de New York. Je rêvais de devenir un grand joueur de baseball. Mon père acceptait de m'emmener voir un match dans le Bronx, dans le vieux Yankee Stadium, légendaire. Je vois encore le mouvement de la batte de Joe DiMaggio lorsqu'il a réussi à faire le tour complet du terrain. Mon père était assis côté de moi et c'est la seule fois où nous sommes allés ensemble à un grand match de baseball. Mais une autre journée, avec mon père, a façonné ma vie pour toujours. Il m'avait emmené du New Jersey jusqu'à Salt Lake City chez un patriarche ordonné. Je n'avais jamais vu cet homme auparavant. Mon père m'a laissé. Sitôt passé la porte, le patriarche m'a conduit jusqu'à une chaise, a posé les mains sur ma tête et a prononcé une bénédiction qui comprenait une déclaration de mon désir le plus profond. Il a déclaré que j'étais l'un de ceux au sujet desquels il avait été dit « Bénis sont ceux qui procurent la paix ». J'ai été si surpris qu'un inconnu connaisse mon cœur que j'ai ouvert les yeux pour voir la pièce dans laquelle se produisait un tel miracle. Cette bénédiction au sujet de mes possibilités a façonné ma vie, mon mariage et mon service dans la prêtrise. Cette expérience et ce qui a suivi me permettent de témoigner, car tous ne reçoivent pas tous les dons, car il y a de nombreux dons et chacun reçoit un don par l'Esprit de Dieu. Du fait que le Seigneur m'a révélé un don, j'ai pu reconnaître les occasions de l'utiliser pour le profit des personnes que j'aime et que je sers et m'y préparer. Dieu connaît nos dons. Je nous lance le défi, à vous et à moi, de prier pour connaître les dons que nous avons reçus, pour savoir comment les cultiver et pour reconnaître les occasions que Dieu nous donne de servir les autres. Plus important encore, je prie pour que vous soyez inspirés pour aider les autres à découvrir les dons particuliers de Dieu qu'ils ont pour servir. Je vous promets que si vous le demandez, vous aurez la bénédiction d'aider les autres à atteindre leur plein potentiel dans leur service auprès des personnes qu'ils dirigent et aiment. J'en témoigne. Je témoigne que Dieu vit, que Jésus est le Christ. C'est la prêtrise de Dieu que nous détenons. Et Dieu nous a préparés avec des dons spéciaux pour le servir. Au-delà de nos plus grandes espérances, au nom de Jésus-Christ. Amen.
My dear brethren, we are grateful for your attendance this evening.
Frères, nous vous remercions de votre présence ce soir. Nous remercions aussi les discours que nous avons, les personnes qui ont donné les discours ce soir. Nous remercions aussi le chœur de la prêtrise pour la belle musique qu'il interprétait et toutes les personnes qui ont aidé à préparer ces sessions. Nous aurons maintenant le plaisir d'entendre notre prophète bien-aimé, Thomas S. Monson, président de l'Église. Après son discours, le chœur clora cette réunion en chantant « Ô vaillant guerrier d'Israël ». Ensuite, Patrick Kiron, des 70, fera la prière de clôture.
My dear brethren,
mes chers frères, deux fois par an, ce magnifique centre de conférence est complètement rempli de détenteurs de la prêtrise de Dieu, rassemblés pour écouter des messages inspirants. La réunion générale de prêtrise de l'Église est empreinte d'un merveilleux esprit. Cet esprit émane du centre de conférence et pénètre dans chacun des bâtiments où les fils de Dieu s'assemblent. Nous avons, sans aucun doute, ressenti cet esprit ce soir. Il y a quelques années, avant que ce beau centre de conférence soit construit, un homme qui visait Temple Square a assisté à une session de la conférence générale. Il a écouté les messages des frères. Il a prêté attention aux prières. Il a entendu la belle musique interprétée par le chœur du tabernacle. Il s'est émerveillé devant les magnifiques orgues du tabernacle. À la fin de la réunion, on l'a entendu dire « Je donnerai tout ce que je possède si je savais que ce que ces orateurs ont dit aujourd'hui est vrai. » Il disait en substance « Je voudrais bien avoir le témoignage de l'Évangile. » Il n'y a absolument rien au monde qui apporte plus de réconfort et de bonheur que le témoignage de la vérité. Je crois que chaque homme ou jeune homme qui est ici ce soir a, bien qu'à des degrés divers, un témoignage. S'il vous semble que votre témoignage n'est pas encore aussi profond que vous le souhaiteriez, je vous exhorte à vous efforcer de l'obtenir. S'il est fort et profond, efforcez-vous de le maintenir ainsi, comme nous sommes bénis d'avoir la connaissance de la vérité. Le message que je vous adresse ce soir, mes frères, c'est qu'il y a d'innombrables personnes qui ont peu ou n'ont pas de témoignage à présent. Des gens qui pourraient recevoir ou recevraient ce témoignage si nous étions disposés à faire l'effort de le leur rendre, de les aider à changer. Dans certains cas, c'est nous qui pouvons les motiver à changer. Je mentionne premièrement ceux qui sont membres, mais qui ne sont pas actuellement engagés vis-à-vis de l'Évangile. Il y a de nombreuses années, lors d'une conférence régionale à Helsinki, j'ai entendu un message mémorable et motivant prononcé dans une session pour les mères et les filles. Je ne l'ai pas oublié, bien que 40 ans aient passé depuis. Entre autres vérités qu'elle a abordées, l'oratrice a dit qu'une femme a besoin de s'entendre dire qu'elle est belle. Une femme a besoin de s'entendre dire qu'elle est belle. Elle a besoin de s'entendre dire qu'on l'apprécie. Elle a besoin de s'entendre dire qu'elle a de la valeur. Mes frères, je sais que les hommes sont très semblables aux femmes à cet égard. Nous avons besoin qu'on nous dise que nous comptons, que nous sommes capables et avons de la valeur. Nous avons besoin qu'on nous donne une occasion de servir. Quant aux membres qui ne sont plus pratiquants ou qui restent sur leur camp à soi et ne s'engagent pas, nous pouvons, dans la prière, rechercher le moyen de les toucher. Une invitation à servir à tel ou tel poste peut être la motivation qu'il leur faut pour redevenir pleinement pratiquants. Mais les dirigeants qui pourraient aider dans ce domaine sont parfois réticents à le faire. Nous devons garder à l'esprit que les gens peuvent changer. Ils peuvent abandonner les mauvaises habitudes. Ils peuvent se repentir de leurs transgressions. Ils peuvent détenir la prêtrise dignement. Et ils peuvent servir diligemment le Seigneur. En voici quelques illustrations. Quand je suis devenu membre du Collège des Douze Apôtres, j'ai eu l'occasion d'accompagner Enelon Tanner, conseiller du président McKay, à une conférence de pieux en Alberta, au Canada. Au cours de la réunion, le président de pieux a lu les noms de quatre frères qui s'étaient qualifiés pour être ordonnés anciens. C'étaient des hommes que le président Tanner connaissait, car il avait vécu dans la région à cette époque, à une époque. Mais il les connaissait et se les rappelait tels qu'ils avaient été. Et il ne savait pas qu'ils avaient complètement changé leur vie et s'étaient pleinement qualifiés pour devenir anciens. Le président de pieux a lu le nom du premier homme et lui a demandé de se lever. Le président Tanner a murmuré, « Regardez-le, je n'aurais jamais cru qu'il y arriverait. » Le président de pieux a lu le nom du deuxième homme qui s'est levé. Le président Tanner m'a donné un petit coup de coude et m'a fait part de son étonnement. Et cela a été pareil pour les quatre frères. Après la réunion, le président Tanner et moi avons pu féliciter les quatre frères. Ils avaient démontré que les hommes peuvent changer. Pendant les années 1940 et 1950, Clinton Duffy, le directeur d'une prison américaine, était connu pour ses efforts pour réformer les hommes de sa prison. Un détracteur lui a dit, « Vous ne savez donc pas qu'un loup ne peut pas devenir un mouton ?» Monsieur Duffy a répondu, « Apprenez que je ne travaille pas avec des loups. Je travaille avec des hommes. Et les hommes changent tous les jours. » Il y a de nombreuses années, j'étais président de la mission canadienne. Nous avions une branche qui comptait très peu de détenteurs de la prêtrise. Nous avions toujours un missionnaire comme président de branche. J'ai reçu la forte impression que nous devions avoir un membre local comme président de branche. Nous avions dans la branche un membre adulte qui était diacre dans la prêtrise d'Aaron, mais qui n'assistait pas ou ne participait pas à ces réunions pour avancer dans la prêtrise. Je me suis senti inspiré à l'appeler comme président de branche. Je n'oublierai jamais le jour où j'ai eu un entretien avec lui. Je lui ai dit que le Seigneur m'avait inspiré à l'appeler à être le président de la branche. Après beaucoup de protestations de sa part et d'encouragement de sa femme, il a dit qu'il acceptait. Je l'ai ordonné prêtre. Cela a été un nouveau départ pour cet homme. Il n'a pas tardé à mettre sa vie en ordre. Il m'a assuré qu'il observerait les commandements, comme cela était attendu de lui. Quelques mois plus tard, il est ordonné ancien. Plus tard, sa femme et lui sont allés au temple et ont été scellés. Leurs enfants ont fait une mission et sont mariés dans la maison du Seigneur. Parfois, quand on fait savoir à nos frères qu'on a besoin d'eux et qu'on les apprécie, cela peut les aider à franchir le pas, à s'engager, à devenir pleinement pratiquants. Cela peut être vrai des détenteurs de la prêtrise à tout âge. Il nous incombe de leur donner des occasions de vivre comme ils le doivent. Nous pouvons les aider à surmonter leurs faiblesses. Nous devons acquérir la capacité de voir les hommes non comme ils sont actuellement, mais comme ils pourront devenir quand ils auront reçu le témoignage de l'Évangile du Christ. Un jour, j'ai assisté à une réunion à Leadville, au Colorado. Cette ville est située à plus de 10 000 pieds, 3 000 mètres d'altitude. Je me souviens de cette réunion du fait de l'altitude élevée, mais aussi pour ce qui s'est passé ce soir-là. Il n'y avait qu'un petit nombre de détenteurs de la prêtrise présents. Comme la branche de la mission canadienne, cette branche était présidée par un missionnaire et l'avait toujours été. Ce soir-là, nous avons eu une excellente réunion, mais pendant que nous chantions le cantique de clôture, j'ai reçu l'inspiration que ce devrait être un président de branche locale qui la présidait. Je me suis tourné vers le président de mission et je lui ai demandé, « Il n'y a pas quelqu'un ici qui pourrait présider un homme de la région ?» Il a répondu, « Je n'en connais pas. » Pendant le cantique, j'ai regardé attentivement les hommes assis aux trois premiers rangs. Mon attention s'est portée sur l'un des frères. J'ai demandé au président de mission, « Il ne pourrait pas être le président de branche ?» Il a répondu, « Je ne sais pas. Peut-être que oui. » J'ai dit, « Président, je vais l'emmener dans l'autre salle et avoir un entretien avec lui. Prenez la parole après le cantique de clôture jusqu'à notre retour. » Quand nous sommes revenus dans la salle, le président de mission a conclu son témoignage. J'ai présenté le nom du frère comme nouveau président de la branche. Depuis ce jour-là, l'unité de Leadville est dirigée par un membre local. Mes frères, le même principe s'applique à ceux qui ne sont pas encore membres. Nous devons acquérir la capacité de voir les hommes non comme ils sont, mais comme ils peuvent devenir, une fois qu'ils seront membres de l'Église, qu'ils auront le témoignage de l'Évangile et que leur vie sera en harmonie avec ses enseignements. En 1961, a eu lieu une conférence mondiale pour les présidents de mission. Et l'on a fait venir chacun des présidents de mission de l'Église à Salt Lake City pour ces réunions. Je suis venu à Salt Lake City de ma mission à Toronto, au Canada. Dans une des réunions, un entraîneur qui était assistant du Collège des 12 venait de rentrer de la première expérience comme président des missions de Grande-Bretagne et d'Europe de l'Ouest. Au cours d'une des réunions, il a parlé du missionnaire qui avait eu le plus de réussite de tous ceux avec qui il avait eu des entretiens. Il a raconté qu'au cours de l'entretien, il avait dit au missionnaire, « Je suppose que tous les gens que vous avez baptisés sont entrés dans l'Église à la suite de références de membres. » Le jeune homme a répondu « Non. Nous les avons tous trouvés en faisant du porte-à-porte. » Fatana lui a demandé ce qu'il y avait de différent dans sa façon de faire. Pourquoi il avait une réussite si phénoménale alors que les autres n'en avaient pas? Le jeune homme a dit qu'il essayait de baptiser chacune des personnes qu'il rencontrait. Il a dit que s'il frappait à la porte d'un homme qui fumait le cigare, portait de vieux vêtements et ne semblait intéressé par rien, et surtout pas par la religion, il essayait de se l'imaginer comment cet homme serait dans d'autres circonstances. Il l'imaginait rasé de frais, portant une chemise et un pantalon blanc, et il se voyait conduisant l'homme dans les eaux du baptême. Il a dit, « Quand je regarde quelqu'un de cette façon, j'ai la capacité de lui rendre témoignage d'une manière qui peut toucher son cœur. Nous avons la responsabilité de regarder nos amis, nos fréquentations, nos voisins, de cette manière-là. Je le répète, nous avons la responsabilité de voir les gens non comme ils sont, mais comme ils peuvent devenir. Je vous supplie de penser à eux de cette manière. Mes frères, le Seigneur nous a dit quelque chose sur l'importance de la prêtrise que nous détenons. Il nous a dit que nous la recevons avec un serment et une alliance. Il nous a dit d'être fidèles et loyaux dans tout ce que nous recevons et que nous avons la responsabilité de respecter cette alliance jusqu'à la fin. Et alors, tout ce que le Père a nous sera donné. Courage est le mot que nous devons garder dans le cœur. Le courage de tourner le dos à la tentation. Le courage d'élever la voix pour témoigner à tous les gens que nous rencontrons, en nous souvenant que tout le monde doit avoir la possibilité d'entendre le message. Pour la plupart d'entre nous, ce n'est pas facile à faire, mais nous pouvons croire les paroles que Paul a adressées à Timothée, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. En mai 1974, je me trouvais avec John H. Groberg dans les îles Tonga. Nous avions rendez-vous avec le roi de Tonga et nous l'avons rencontré au cours d'une audience officielle. Nous avons échangé les plaisanteries habituelles. Mais avant notre départ, John Groberg a dit quelque chose qui n'était pas habituel. Il a dit, « Majesté, vous devriez devenir mormon, et vos sujets aussi. Alors, vos problèmes et les leurs seraient en grande partie résolus. » Le roi a répondu dans un large sourire, « John Groberg, vous avez peut-être raison. » J'ai pensé à l'apôtre Paul devant Agrippa. J'ai pensé à la réponse d'Agrippa au témoignage de Paul. « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Frère Groberg a eu le courage de rendre témoignage à un roi. Ce soir, de nombreux milliers d'entre nous servent le Seigneur à plein temps comme missionnaires. En réponse à un appel, ils ont laissé foyer, famille, amis, études et sont partis servir. Les gens qui ne comprennent pas demandent, Pourquoi répondent-ils si promptement et donnent-ils tant si volontiers? Nos missionnaires pourraient répondre par les paroles de Paul, ce missionnaire sans parler d'autrefois. Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Les Saintes Écritures ne contiennent pas de proclamations plus pertinentes, de responsabilités plus obligatoires, d'instructions plus directes que l'injonction que le Seigneur ressuscité a donnée quand il est apparu aux 11 disciples en Galilée. Il a dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Ce divin commandement, avec la glorieuse promesse qui l'accompagne, est notre maître mot aujourd'hui, comme il était au midi des temps. L'œuvre missionnaire est un trait distinctif de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Elle l'a toujours été. Elle le sera toujours. Comme Joseph Smith, le prophète, l'a déclaré, en fin de compte, le devoir le plus grand et le plus important est de prêcher l'Évangile. Dans deux brèves années, tous les missionnaires à plein temps actuellement en service dans l'armée royale de Dieu auront terminé leur labeur à plein temps et seront rentrés dans leur foyer auprès de leurs êtres chers. Le remplaçant se trouve ce soir dans les rangs de la prêtrise d'Aaron de l'Église. Jeunes gens, êtes-vous prêts à répondre? Êtes-vous disposés à œuvrer? Êtes-vous préparés à servir? John Taylor a résumé les conditions requises. Les hommes que nous voulons pour porter ce message de l'Évangile sont des hommes qui ont foi en Dieu, des hommes qui ont foi en leur religion, des hommes qui honorent leur prêtrise, des hommes d'honneur, intègres, vertueux et pur. Mes frères, chacun de nous a reçu le mandat de proclamer l'Évangile du Christ. Si notre vie est conforme aux principes de Dieu, les gens qui se trouvent dans notre sphère d'influence ne pousseront jamais cette lamentation. La moisson est passée. L'été est fini et mon âme n'est pas sauvée. Le berger parfait des âmes, le missionnaire qui a racheté l'humanité, nous a donné son assurance divine. Si vous travaillez toute votre vie à appeler ce peuple à repentir et que vous amenez ne fût-ce qu'une seule âme, comme votre joie sera grande avec elle dans le royaume de mon Père. Et or, si votre joie est grande avec cette seule âme que vous m'aurez amenée dans le royaume de mon Père, comme elle sera grande si vous m'en amenez beaucoup. De celui qui a prononcé ces paroles, je rends témoignage. Il est le Fils de Dieu, notre Rédempteur et notre Sauveur. Je prie pour que nous ayons le courage de tendre une main accueillante, la ténacité d'essayer et d'essayer encore, et l'humilité nécessaire pour demander à notre Père de nous guider dans nos efforts pour nous acquitter de notre mandat de proclamer l'Évangile. Cette responsabilité nous incombe, mes frères. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Cher Père Céleste, nous te remercions pour la majesté de ce cantique et pour la puissance des messages qui nous ont été donnés et pour la préparation de ceux qui les ont donnés. Nous prions pour que chacun d'entre nous, à présent, ait le courage et la foi et la vigueur de devenir ces hommes que nous avons besoin de devenir. Que nous puissions vivre à la hauteur de notre ordination et que nous puissions bénir le monde. Nous prions pour ceux qui sont découragés, qui sont mal à l'aise, qui luttent de toutes sortes de façons, et nous prions pour que tu puisses les fortifier. Nous te remercions, Père, pour toi, pour ton Fils, et nous exprimons ces choses au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen.